Le problème, c'était de parler français. Alors, quand on parle français, ça va, mais si on ne peut pas, au début, on ne comprenait pas français. Et c'était tout un problème de pouvoir s'exprimer dans la cour, puisqu'on n'arrivait pas à s'exprimer. Alors, quand il y avait un camarade qui venait, on imitait comme si on parlait le français. On dit toi, 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 enfin, des mots qui n'ont aucun sens parce qu'il fallait parler français.
Comment apprendre le français? En Afrique, dans les années 40, ce n'était pas une partie de rigolade et malgré son rire communicatif et heureux, Amadou Kourouma peut en témoigner de son rapport à la langue et de la naissance de son premier roman, Le Soleil des Indépendances. Notre collection de voix remarquables va donc s'enrichir aujourd'hui avec celle de l'écrivain ivoirien disparu en 2003. Comment apprendre le français? Aujourd'hui, à Abidjan ou à Paris, il faut lire, tous les profs et tous les parents le disent, et avec eux, les écrivains et les éditeurs. Aussi en France, le Syndicat National de l'Édition organise depuis 8 ans un jeu, les petits champions de la lecture. Bonjour Laura Baron.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice nationale de ce projet qui est né sur un modèle allemand, je crois.
Oui, tout à fait. Nous nous sommes inspirés d'un modèle allemand qui existe maintenant depuis des dizaines et des dizaines d'années là-bas. Et nous l'avons lancé il y a 8 ans pour l'adapter ici en France et offrir à tous les élèves de CM2 une opération placée sous le signe de la lecture à voix haute et du plaisir de lire.
Alors c'est un principe assez simple, c'est celui qui lit le mieux qui gagne.
Alors oui, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Déjà, le choix du texte, le choix du livre, mais aussi de l'extrait, la pertinence de cet extrait, mais aussi évidemment, en effet, la technique et la posture qui sont des éléments clés de la lecture à voix haute.
Alors bien sûr, cette année, tout se fait via les réseaux sociaux et sur une chaîne YouTube dédiée à la compétition. Elle est en cours. Résultat, mercredi. Exemple de ce que l'on peut voir et entendre.
Cher Stéphane, nous, je m'appelle, nous, je suis, et nous, et la situation. Non, je ne me suis pas enfui, non, je n'ai pas disparu et je suis près de toi. Si près que tu ne me vois pas, retourne-toi, tu chauds. De l'autre côté, c'est froid. Je suis enfermée, là, dans la buanderie. Enfermée? Oui. Si tu savais comme je me sens nouille. Je suis une nouille prisonnière d'une machine à laver.
Etc, etc. Il faut insister, Laura Baron, sur le fait que c'est l'enfant qui choisit le texte, hein?
Oui, tout à fait. Durant toutes les étapes du jeu, il y en a 4 tout au long de l'année, l'enfant est libre de choisir son texte, le livre qu'il aime, le livre qui lui plaît, un sujet qui le touche. Et c'est important pour contribuer au plaisir de lire, de laisser cette liberté à l'enfant.
Parce que cela se fait bien évidemment avec la classe. On pourrait dire, mais un enfant qui n'a pas du tout l'habitude de lire ou qui n'a pas de livre chez lui, comment il fait pour choisir son propre livre? Non, ça se passe avec la classe.
Tout à fait, c'est une aventure collective qui démarre dès la rentrée scolaire. C'est l'enseignant ou le bibliothécaire qui travaille avec la classe qui porte ce projet et qui invite tous les enfants à choisir un livre dans leur bibliothèque personnelle, dans la bibliothèque d'école, et à s'emparer d'un extrait et à le présenter à tous les camarades. Et c'est entre camarades qui choisissent celui qui va les représenter pour l'étape départementale. Ensuite suivra l'étape régionale et enfin nationale. Mais c'est avant tout une aventure collective.
Vous avez eu des surprises sur le choix des livres?
Alors, on a un panel de choix qui est vraiment très varié, avec toujours des titres qui reviennent assez régulièrement, comme des livres de Roald Dahl, ou encore Harry Potter de J.K. Rowling, qui sont vraiment des choix très prisés sur les premières étapes du jeu. Et puis pour la finale nationale, on leur soumet une liste de livres, qui sont des livres parus récemment, et que nous proposent les éditeurs jeunesse, tout simplement parce que nous devons nous assurer que les auteurs sont disponibles pour rencontrer les enfants, pour échanger avec les enfants qui choisissent leur livre avant la finale.
Ça, c'est important, la rencontre entre auteur et lecteur à cet âge-là?
Oui, c'est essentiel. Beaucoup gardent d'ailleurs ce moment de la rencontre comme l'un des meilleurs souvenirs de leur aventure, surtout peine scolaire, par rapport aux petits champions. Évidemment, d'habitude, ce sont des rencontres physiques, c'est-à-dire qu'on laisse l'auteur se rendre dans la classe et rencontrer le petit champion et l'ensemble de ses camarades. Et puis, cette année, on a dû s'adapter au contexte sanitaire et organiser toutes ces rencontres avec l'ensemble des élèves de la classe du ou de la petite championne et organiser tout ça en visioconférence.
Alors, ça fait longtemps que je n'ai plus 11 ans, mais quand j'avais 11 ans, j'avais l'impression qu'un romancier, un auteur de livres était un personnage quasiment sacré, inatteignable. C'est le cas encore aujourd'hui ?
Oui, beaucoup au départ peuvent parfois même nous dire « mais il est vivant cet auteur, ils sont parfois surpris ». Il y a quelque chose qui en effet désacralise, voilà, tout à fait. Et puis ils rencontrent des auteurs, c'est vrai que pour eux ça prend une toute autre dimension. Et puis les auteurs ont aussi à cœur de leur partager évidemment ce que c'est d'écrire, ce qu'est le métier d'écrivain, mais aussi de leur parler de l'ensemble de la chaîne du livre. Comment on soumet un livre à un éditeur, comment on choisit une couverture avec une équipe dans une maison d'édition. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont aussi importantes et qui permettent aux enfants d'avoir une autre dimension autour de l'opération.
Alors, ces petits champions de la lecture, Laura Baron, sont un jeu, on l'a compris, un jeu de lecture à haute voix. Est-ce que c'est important dans l'éveil de l'enfant, dans l'apprentissage de la lecture, dans le plaisir de lire, que de lire à haute voix ?
Bien sûr, ça permet d'améliorer son aisance à l'oral, de développer sa confiance en soi, de développer aussi la cohésion au sein d'un groupe qui est la classe. Et puis, voilà, c'est enrichissant de toutes parts sur ces éléments.
Alors, vous avez fait des sondages, je crois, l'an dernier auprès des 1500 profs qui participent avec leurs élèves à cette opération. Et visiblement, ce qui en ressort, c'est que ce ne sont pas forcément les premiers de la classe qui gagnent et qui sont les meilleurs lecteurs.
Tout à fait. On se rend compte vraiment que ce sont... pour presque 60% des participants, systématiquement, ce ne sont pas les premiers de la classe, loin de là. Et on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui se révèlent pendant cette opération. C'est-à-dire que nous, on a des enseignants qui constatent que des élèves très timides, très réservés, au début de l'année, bah, petit à petit, au fur et à mesure de leur participation, se sont révélés et sont devenus beaucoup plus à l'aise, se sont beaucoup mieux intégrés dans le groupe, ont pris vraiment du plaisir à prendre la parole.
Donc mauvais à l'écrit, mais bon à l'oral.
Oh, ils sont certainement très bons à l'écrit aussi. Et ça, je n'en doute pas une seconde. Mais c'est vrai que voilà, ça développe beaucoup de choses, hein, au-delà du goût de la lecture. C'est vraiment quelque chose qui les entraîne et qui dure dans le temps pendant leur apprentissage au collège. C'est-à-dire que quand on retrouve nos anciens petits champions, qu'on leur demande ce qu'ils deviennent, on se rend compte que cette aventure, elle les a suivis tout le long de leur parcours scolaire.
Merci beaucoup, Laura Baron. Et si vous voulez donc, chers auditeurs, qu'on vous raconte des histoires, c'est sur le site des petits champions de la lecture. Résultat de ce jeu, mercredi. Merci beaucoup. Cruel été, premier album de Marty de Lutèce sur RFI dans De Vive Voix. Et ne voyez aucune prémonition dans ce titre, c'est juste l'actu musicale francophone. 5 romans seulement, dont un posthume, mais quel roman ! Amadou Kourouma a obtenu le prix Renaudot pour Allah n'est pas obligé, c'était en 2000, l'histoire d'un enfant soldat. 10 ans plus tôt, c'est le Grand Prix d'Afrique Noire pour Monet, Outrage et Défi. Et si on remonte le temps encore, on arrive en 1968 avec Le Soleil des Indépendances, considéré comme son chef-d'œuvre, mais cela n'a pas toujours été le cas. Écoutez Amadou Kourouma raconter comment il a écrit ce livre, mais plus encore comment il a appris le français à Boundiali, en Côte d'Ivoire, dans les années 30, la voix, le rire et l'inventivité de Kourouma.
Le français est obligatoire. On se promène avec des symboles, c'est-à-dire celui que tu surprends dans la cour en train de parler sa langue, tu lui remets le symbole, il s'en va avec ça. Et le soir, après les écoles, après les travaux, le symbole se trouve dans votre main, ben vous êtes torturé, on vous bat, on vous donne des règles sur les doigts et un certain nombre d'éléments pour vous obliger. Donc, le problème, c'était de parler français. Alors, au début, quand on parle français, ça va, mais si on ne peut pas, au début, on ne comprenait pas français. Et c'était tout un problème de pouvoir s'exprimer dans la cour, puisqu'on n'arrivait pas à s'exprimer. Alors, quand il y avait un camarade qui venait, on imitait comme si on parlait le français. On dit toi, enfin, des mots qui n'ont aucun sens parce qu'il fallait parler français.
Donc, finalement, le français, c'est une langue dont vous avez eu une première approche assez violente.
Oui, c'est pourquoi j'en veux beaucoup au français, parce que notre premier contact a été un contact violent, un contact brutal, de torture. On nous a torturés pour pouvoir parler le français. Alors, donc, au début, ça n'a pas été facile. Voilà.
Quels sont, au fond, à cette époque-là, vos rêves?
Mes rêves, pendant ces temps, c'est de devenir un fonctionnaire colonial. Un très important fonctionnaire colonial, puisque j'allais à l'école supérieure déjà, donc c'était une école technique. J'allais devenir un fonctionnaire important, j'allais devenir chef de service des travaux publics.
Donc vous partez pour la France, vous allez commencer vos études à Paris, je crois, avant de venir à Lyon.
Oui, j'ai commencé à Paris, je voulais devenir ingénieur électricien. Puis, à la fin, j'ai passé le concours commun d'entrée dans les écoles d'ingénieurs et j'étais admis en Nantes Construction Aéronautique et Navale. Pour avoir des bourses, il fallait absolument que je fasse une discipline qui est un débouché en Afrique. La construction aéronautique et navale n'avait pas de débouché en Afrique. Et donc, je risquais de ne plus avoir de bourse. Je suis allé au bus. Le bus m'a donné des documents concernant l'actuariat de Lyon. Je me suis présenté avec ça au ministère de la colonie. Le ministère de la colonie a dit, mais très, très bien, si tu arrives à réussir ce concours, ben, tu auras ta bourse. Parce que nous envisageons de faire dans les colonies des caisses de prestations familiales. Donc, on aura besoin d'actuaires. Donc, je suis venu à Lyon, j'ai passé le concours d'actuariat et j'ai fait l'actuariat à Lyon.
Alors ce métier d'actuaire, c'est très étonnant lorsque on pense à cette profession et qu'on lit vos romans, parce qu'il y a probablement peu de métiers qui aient une langue plus précise, plus technique que celle d'actuaire. Autrement dit, vous êtes un homme formé à la précision du langage très très pointu, et lorsqu'on sait le romancier que vous allez devenir, il y a là un hiatus extraordinaire.
Oui, ça se comprend, parce que peut-être c'était un peu pour compenser ce qui est arrivé, ce que l'actuariat, les mathématiques imposaient comme précision. C'était ça un peu que on faisait le contraire en écrivant le soir. Bon, j'étais actuaire, mais ça ne me plaisait pas beaucoup. Je voulais me mettre un peu dans la culture. Et je me mets à lire, mais je m'aperçois en lisant que c'était très très mal écrit, les thèses. Et je me suis dit, écoute, avant d'écrire quelque chose, il faut que j'apprenne à écrire. Voilà, je me suis imposé ça, apprendre à écrire avant d'écrire quelque chose.
Et ça s'est traduit comment ?
Ça s'est traduit par le fait que je lisais beaucoup. Je faisais un peu des exercices d'écriture, mais enfin, je sais que je lisais beaucoup. Je me rappelle pendant ce temps, La bonne chose, c'est que j'ai comme lecture, c'est incroyable. J'ai presque tous les essais, je les lisais. Je lisais des romans, je lisais tout ce qui tombait sous la main, je les lisais. Quand on était étudiant, nous pensions qu'il suffisait que nous ayons l'indépendance. Pendant ce temps, on parlait d'indépendance. Il suffisait que nous ayons l'indépendance pour que tous les problèmes d'Afrique soient résolus. Ça peut faire rire. On croyait qu'avec l'indépendance, même les voleurs en Afrique n'allaient plus exister. Parce qu'après tant de siècles d'esclavage, tant d'années de colonisation, on croyait que nous allons nous unir tous pour développer l'Afrique.
Et en 1960, donc, vous rentrez en Côte d'Ivoire, votre diplôme d'actuaire en poche, et c'est un pays indépendant que vous retrouvez.
Tout de suite en arrivant, la déception, parce que nous pensions qu'on allait tous se mettre dans un mouvement d'ensemble, on allait tous s'unir nos forces, on allait faire l'investissement humain. Et quand on arrive, ceux qui combattaient, ceux qui étaient nos camarades, qui étaient les plus violents ici en France, ont commencé à aller, vous allez me permettre le mot, aller à la soupe. Alors donc, tous ces gens étaient arrivés, Oufoué, après avoir été communiste, est devenu anticommuniste, violemment anticommuniste. Et donc, on est déçu parce qu'on voit que les choses ne vont pas. Et nous faisons des petites réunions. Oufoué allait appeler ça un complot. Oufoué se méfiait de tout ce qui était comme intellectuel.
Et Oufoué fait arrêter des intellectuels.
Il a eu peur. Alors il a arrêté tous les intellectuels et il les a torturés jusqu'à ce qu'ils disent qu'ils ont participé à un complot.
Alors nous sommes à cette époque-là, en 1963.
63.
C'est 63, ça. Voilà. Et vous faites partie des gens qui sont traités
voilà,
à Badjoukourouma.
Je suis un peu torturé, et puis mis en prison et libéré. Libéré rapidement parce que je suis marié à une Française. Et il a peur que la France se mêle du complot africain, qui est purement basé sur des histoires de sorciers, des sacrifices sanglants, de maraboutage et tout, et la France ne comprend rien là-dedans et allait se mêler. Alors, on veut absolument trouver une justification à mon arrestation, parce que les autres, on les a arrêtés sans justification, mais moi, il fallait trouver une justification. On prépare des sorciers qui préparent la photo de Oufoué avec des gris-gris et tout. Et on voudrait que je me présente là, on envoie quelqu'un chez moi pour dire oui, Amadou, tu vois, tu as des problèmes, il faut que tu ailles voir ce sorcier parce que moi je ne croyais pas aux sorciers, je ne suis pas parti. Heureusement que je ne suis pas parti parce qu'après, ceux qui s'occupaient de ces problèmes étaient des anciens d'Indochine qui me connaissaient, qui m'ont dit si j'étais venu, ben on allait me photographier avec les photos de Oufoué, avec des histoires de sorciers et tout. Donc on allait avoir une bonne raison de me mettre en prison définitivement.
Donc on vous libère, mais pour autant vous n'avez pas le droit de travailler.
Ah non, je n'ai pas le droit de travailler. Chaque fois que je me présente à un poste, je veux demander un emploi, Oufoué envoie un petit coup de téléphone et ça renverse tout. Je reste 7 mois, 8 mois à traîner à Abidjan. Et c'est pendant ce temps je compose le Soleil des Indépendances. C'était pour lutter un peu pour ça que j'ai commencé à écrire. De dire que mes copains ne méritaient pas le sort qu'on leur avait appliqué, qu'ils n'avaient pas participé à un complot, ben, ça a été reconnu après, mais en 69, que ça a été reconnu qu'il n'y avait pas eu de complot, alors j'ai décidé d'en faire une fiction.
On comprend bien, Amadou Kourouma, que cette terrible déception que vit votre personnage Fama au moment des indépendances, vous l'avez vous-même vécue.
Oui, j'ai un peu vécu ça, ouais, j'étais un peu déçu, très très déçu, parce que l'indépendance ne correspondait pas du tout à ce qu'on pensait.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que Les Soleils des Indépendances, ça a été sur la scène littéraire africaine une véritable révélation, mais peut-être même une révolution. Sur le fond, parce qu'il y avait un contenu quand même très subversif dans ce roman, mais je crois que ce qu'on a retenu essentiellement, c'est la langue. Parce que vous avez écrit ce roman dans une langue qui ne ressemblait à rien de ce qu'on lisait à l'époque.
Oui, alors évidemment, j'ai voulu, comme tout le monde, écrire ce roman dans le langage classique français. Puis, quand j'ai fait ça, je me suis aperçu que le personnage ne sortait pas. Il fallait lui donner le langage malinqué. Le malinké est une langue agglutinante. Donc, il fallait absolument faire ressortir ça. Le livre commence par une expression qu'on est avec fini. Qu'est-ce que ça veut dire fini? Mais parce que la culture africaine est une culture animiste. Les gens ne meurent pas. Si je voulais écrire en français, si j'utilisais l'expression française, il est mort, j'allais mentir. Parce que c'est pas ça, il ne meurt pas. Hein? Il interrompt quelque chose, il finit et il reprend. Donc cette première expression déjà indique la différence entre le français et l'africain.
D'où l'événement qu'a constitué effectivement la publication de ce roman, bien que, il faut tout de même le dire, cette publication n'a pas été si évidente, parce que de très nombreux éditeurs français ont commencé par le refuser.
Ah, tous les éditeurs français l'ont refusé. Il n'y a que Bernard Nadier, c'est pas comme l'écrivain qui est mort il y a quelques temps.
Jean-Éder Nallier.
Et voilà, qui était, je crois, lecteur quelque part, avec, quand il a lu ce roman. Il m'a écrit en disant, écoute, moi je suis prêt à publier ce roman, même s'il faut me sacrifier, parce que c'est un roman extraordinaire.
L'histoire de la publication de ce premier roman, Amadou Kourouma, est tout de même extrêmement étonnante. Lorsque l'on sait le succès que va avoir ce titre, qui est devenu en Afrique un très grand classique, qu'on enseigne dans les écoles, qui a été traduit dans des dizaines de langues. Et lorsqu'on repense à l'histoire de la publication de ce manuscrit, c'est tout de même un peu troublant.
C'est un peu troublant parce que ce manuscrit donc passe au Québec, que Québec, le professeur Vachon trouve que le roman a beaucoup de valeur. Et donc, il vient trouver les éditions du Seuil qui étaient dirigées par la famille Flamand. Et il dit, voilà, écoutez, vous allez prendre ce roman, je vais vous le donner à un franc symbolique. Et puis voilà, vous aviez refusé d'abord parce que j'avais présenté au Seuil comme à tout le monde. J'avais présenté la présence africaine qui m'a injurié, presque, qui m'a injurié en disant que avant d'indiquer, d'injurier les Oufoué ou tout, il fallait d'abord apprendre le français. Et puis, j'avais passé aux éditions du Seuil qui l'avaient aussi refusé. Et donc, il passe à la famille Flamand, qui a pris le roman et s'est excusé de l'avoir rejeté.
Amadou Kourouma au micro de Catherine Pont-Hubert en 99 dans l'émission Mille Soleils de RFI, quelques années avant sa mort à Lyon en 2003. Abirugue azikatok bon haye iwirire. Abirugue azikatok bon haye iwirire. Ziboten di ekude kwa soko pewa o. Ziboten di ekude kwa soko pewa o. Ziboten abawara ba irugue wangwa tumure. Ye tumure. Ziboten ete wa gege ba irugu wangwa tumure. Wa tumure. Ziboten koko sakiri kurumu wa suwa bwene vereya. Wa aye. Ziboten ame sakiri kurumu wa suwa bwene vereya. Wa aye. Ziboten anungiri aen. Ziboten anungiri awayan. Ziboten. Ernesto Djedje et son ziboté. Il en va retrouver le linguiste Jean Pruvot. Ziva, de mots à mots. Bonjour Jean Pruvot.
Bonjour Pascal.
Ça sent les beignets abricots, l'huile bronzante et les embruns. Bref, ça sent la plage.
Eh oui, ça c'est quelque chose qui nous est cher, hein. Toutes les petites gâteries alimentaires autour de la plage.
Mais la plage telle qu'on la connaît est une invention relativement moderne, et le mot aussi d'ailleurs.
Eh bien oui, alors ça c'est curieux, parce que quand on regarde d'un peu plus près la littérature, disons du Moyen-Âge ou encore du XVIe et XVIIe, la plage n'est pas du tout quelque chose de sympathique. Elle est redoutée par les marins, parce que pour eux ce sont des rivages dangereux. Quand c'est des rochers, on les voit, Mais se retrouver finalement échoué sur la plage, et rien de pire pour un marin, le bateau est bloqué. Alors ça vient effectivement du latin, plaga, qui s'est déformé un peu en latin médiéval, plagia, qui a en français donné plage et plaie, aussi plaiu, mais pas très longtemps, et qui dans le fond était un espace plat, et pas forcément au bord de la mer. On a Chateaubriand, par exemple, qui a une très belle description dans Les Martyrs. Il évoque, figurez-vous, seigneur des plages sablonneuses, labourées par les pluies d'hiver, brûlées par les feux de l'été, nous marchâmes tout un jour dans cette plaine, entre des chaînes de montagnes. Donc on voit qu'on n'est pas dans la plage traditionnelle.
Oui, on est dans le rivage à cette époque-là.
Ben, le rivage et même la région, hein, ça a été synonyme à un moment donné, en latin en tout cas, de contrée, et ça s'est retrouvé assez tardivement aussi en langue française. Il y avait le latin piaggia, alors c'est lui qui a vraiment répandu l'idée de la plage agréable au bord de la mer. Bon, ça ne m'étonne pas, hein, l'Italie a des plages magnifiques aussi.
Mais très 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 fréquentées quand même.
Oui.
Et très bruyantes.
Oui, souvent, trop.
Mais enfin, le plaisir vient d'Italie, ça je veux bien le concéder.
Voilà, et puis alors bon, évidemment, de ce plaisir au bord de la mer qui a été lancé aussi par les écrivains, qu'il s'agisse de Maupassant, il évoque le long flot des cabines par ligne qui ressemblaient à des bouquets énormes dans une prairie démesurée. C'est superbe, c'était dans Pierre et Jean en 1887. Et puis Proust de son côté avec Balbec, plage inventée, mais qui est tout à fait dans le style de Deauville, de Trouville. Il y a les plages du Nord et toutes ces plages africaines aussi qui sont devenues de véritables lieux de plaisir en ayant été d'abord des lieux de pêche.
Et des lieux qui ont été fréquentés d'abord beaucoup avec les congés payés et puis la mondialisation, l'explosion du tourisme, etc., etc.
Oui, alors c'est vrai que la notion de station balnéaire a d'ailleurs un double sens, hein. C'est le village ou la ville au bord de la mer, où on vient avec les congés payés, et donc notamment à partir de 1936, puis de l'autre côté la ville thermale. Alors rarement on parle de ville d'eau d'un côté, et plutôt de stations et de belles plages de l'autre. Puis alors après, bah, le mot plage, lui, a trouvé encore d'autres sens, tellement il était répandu, alors que dans le fond, au XVIIe, XVIIIe, bon, c'était le rivage, et pas un rivage si sympathique que ça.
Alors vous parlez de double sens, mais en radio notamment, mais pas que en radio, on parle aussi d'une plage de musique.
C'est ça, c'est-à-dire que il y a eu l'idée, en 1962, sont apparus les disques un peu avant, mais on a parlé des plages, la première plage et la seconde plage, c'est chaque phase du disque avec un enregistrement distinct. Et c'est là, effectivement, Pascal, que la notion de temps, parce que des plages de combien de minutes, est arrivée, et on a évoqué donc de combien de temps. À partir de 1959, on évoque effectivement une plage de temps. Alors, est-ce que j'ai une plage de temps suffisante pour aller à la plage? On peut jouer sur les deux sens. Et est-ce que j'ai mon maillot de bain sur la plage arrière de la voiture aussi?
Mais en tout cas, il ne faut pas rester trop trop longtemps à la plage et pas dans les plages horaires les plus exposées ou les plus brûlantes, disent les médecins. Jean Pruvot, les mots croisés sur la plage?
Ah bah oui, alors il y en a une qui me plaît beaucoup. Il faut imaginer le deuxième mot au pluriel. Hein. Plage, plat de côtes. Alors, ah, c'est pas les mêmes. Mais c'est vraiment plat et c'est des côtes. Puis alors, il y en a une que tout le monde a en tête dès qu'on parle de mai 68. C'est sous les pavés. Alors, vous savez, c'était... alors, je ne sais pas si ce ne l'est pas attribué, mais Jean Hydernalier évoquait dans son Bréviaire pour une jeunesse déracinée ce mot d'ordre que j'inventais au tableau noir du grand amphithéâtre Richelieu à la Sorbonne en mai 68, sous les pavés, la plage. Parce qu'évidemment, sous les pavés, il y a du sable, bien de l'Île-de-France. D'ailleurs, il y a eu la mer aussi dans le bassin parisien. Donc c'est logique.
Merci beaucoup Jean Pruvot. Et bah, la semaine prochaine, on va partir en montagne. Vous êtes d'accord?
Ah bah, avec grand plaisir. Je me prépare.
De vive voix, Pascal Paradou, programmation Louis Calédec, documentation Françoise Delignon, avec Lina, Guillaume Ploquin, Pierre Cognard, à la réalisation et à la technique. On se retrouve demain.